Bonjour, ici Annick Granger. Vous écoutez Radio Ville-Marie parce que la culture, c'est important.
Je vous parle maintenant de l'organisme Enracine qui a été fondé à Montréal en 2007 et qui développe des projets de reforestation sociale en collaboration avec des agriculteurs du Nicaragua. Ces activités qui sont financées grâce à la vente de crédits de carbone, on vous expliquera de quoi il s'agit, à des individus ou des organisations partout à travers le monde. Alors, vous connaissez sans doute le film d'animation de Frédéric Bach, L'homme qui plantait des arbres. Alors, Samuel Gervais a planté plus d'un demi-million d'arbres au Nicaragua à l'aide de son organisation En Route. Il est avec nous en studio. Monsieur Gervais, bonjour.
Bonjour.
D'abord, parlons de votre parcours, parce que vous êtes impliqué internationalement, socialement, de bien des manières au fil des dernières années. Qu'est-ce qui vous a amené finalement au Nicaragua et surtout à fonder cet organisme En Racine?
Ben, j'ai un parcours assez particulier. Je suis pas nécessairement allé au HEC pour étudier la gestion, par exemple, mais j'ai un baccalauréat en photographie en cinéma de Concordia. Et c'est ce qui m'a amené à travailler au sein du milieu du développement international. Donc, mm-hmm. J'ai une première carrière en tant que photographe à documenter des projets à l'international, en Afrique, en Amérique latine. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je repose mes bagages à Montréal pour travailler un peu de chez nous.
Et j'ai commencé enraciner à Montréal,
ouais,
en
exactement.
Quelque sorte.
Et j'ai commencé à travailler pour différents organismes communautaires, donc en gestion de projet. En 2007, lors d'une conférence sur le développement économique communautaire à Concordia, j'ai rencontré trois diplômés aussi de Concordia. On avait tous une passion commune là, à propos du développement, que ce soit communautaire, international. Un de nous faisait beaucoup de projets de reforestation en Amérique centrale, entre autres. Et il y a eu vraiment, ça a cliqué entre nous. Et on a décidé de partir peut-être avec une idée un peu utopique au départ, mais de partir un projet de reforestation au Nicaragua. Ça s'est donc fondé en 2007 et maintenant on est rendu en 2012, on s'est positionné au sein du marché du carbone, ce qui nous a permis de financer de façon durable nos projets.
Bon, ça m'amène évidemment à vous demander en quoi consistent ces crédits carbone. On commence à en parler depuis un certain temps. Ce n'est pas implanté partout, mais ça vous aide à financer cette opération de reforestation sociale. Comment ça fonctionne au juste?
C'est assez large comme sujet. En racine, nous, on s'est positionné au sein du marché du carbone qui est volontaire. Donc, il y a deux portions, une portion réglementaire, un peu comme la bourse du carbone qui existe en Europe et qui a débuté au Québec. Ça, on peut en parler, mais c'est un autre marché. Donc, le marché volontaire du carbone pour En Racine, nos clients sont des entreprises et des individus qui décident de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre.
Donc, ils achètent ce qu'on appelle des permis de pollution, comme certains
disent. Compensations
carbone. Des compensations.
Oui, ouais. Et donc, ils le font de façon volontaire, bénévole. Nous, ce qu'on fait pour compenser les émissions de ces gens-là, c'est qu'on développe nos projets de reforestation sociale, qu'on appelle sociale au Nicaragua. Nos partenaires, qui sont des agriculteurs, des familles d'agriculteurs pauvres au Nicaragua, vont reboiser des portions sous-utilisées de leurs terres avec des espèces d'arbres locales, indigènes. Et donc, en plantant des arbres et en les maintenant en vie, ces arbres-là vont capter le CO2. Cette captation est un service écologique qui a une valeur sur les marchés internationaux.
Qui se négocie où?
Nous, c'est de gré à gré. Donc,
OK.
Oui. Donc, on approche des entreprises, des individus pour leur proposer de compenser leurs émissions.
Donc, eux vous paient, là, pour planter des arbres au Nicaragua?
Oui.
Mais encore là, vous dites que c'est de gré à gré. Comment est-ce qu'on évalue la valeur ou ces crédits carbone?
Dans ce marché volontaire, il n'y a pas une bourse qui indique le prix du carbone. C'est vraiment, les prix vont varier selon le type de projet parce qu'il existe des projets de carbone en énergie renouvelable, efficacité énergétique, par exemple. Chaque organisation vont établir leur prix de vente. Ça peut varier de 25 à 40 $.
Quoi, par arbre planté?
Non, par crédit. Dans notre cas, à nous, ça représente à peu près 5 arbres par crédit.
D'accord. Ouais. OK. Alors, donc, et ça, c'est vendu à quelle entreprise? Il y a des entreprises québécoises, canadiennes?
Oui, oui. Nous, on fait une grande partie de nos ventes en Europe. Donc, on écoule les gros volumes. Donc, on vend directement à des détaillants de crédits de carbone qui sont en Europe. Mais pour ce qui est du marché ici au Québec, au Canada, parmi nos clients, ben, on a autant des grandes entreprises que des petites entreprises. Mais il y a Cascade, il y a Desjardins, il y a la brûlerie Centropole qui distribue des cafés bio équitables.
Vous avez travaillé pour eux? Non, c'est le Centropole Roulant?
Roulant, oui.
Non, ça, c'est deux organisations. C'est un petit peu différent. Ça se ressemble, le terme, mais c'est pas la même chose.
Donc, c'est assez varié, mais c'est la plupart du temps des gens qui se sont engagés, qui s'engagent dans la voie du développement durable, donc qui considèrent que de respecter une éco-responsabilité ou faire preuve de responsabilité sociale, c'est une priorité pour eux. Donc, la compensation carbone peut faire partie de cette démarche-là.
Est-ce que ça a été facile d'élaborer ou de négocier ce genre de crise, cet échange de crédit carbone auprès d'entreprises, de les convaincre finalement d'acheter ces crédits pour financer votre opération de reforestation?
Non, c'est pas évident. comme je disais, la plus grande partie de nos affaires se fait en Europe. Là-bas,
parce que là, c'est établi depuis un certain temps.
Oui, c'est ça. La population, le public est assez informé sur les changements climatiques, sur la compensation carbone. Là-bas, on n'a pas besoin de faire de sensibilisation. C'est nos clients qui vendent à des acheteurs finaux. Mais ici, c'est complètement...
Vous avez des intermédiaires qui négocient ça pour vous.
Ici, c'est différent. Et effectivement, il faut faire beaucoup de sensibilisation pour, si on peut dire, créer ce marché-là. Puis bon, de toute façon, dans la mission d'Enracine, on a un aspect là, de sensibilisation sur les changements climatiques, donc ça fait partie de notre mission. Mais il faut en parler le plus possible. On n'est pas les seuls à le faire, mais il faut toujours reprendre à zéro, donner si on pourrait dire, un cours 101 là, de changement climatique, compensation carbone. Mais il faut trouver les bons partenaires, puis il y en a de plus en plus. Mais c'est un travail à reprendre à chaque jour. Là.
Bon, et là, les gens vont se demander, mais pourquoi ne pas faire la même opération chez nous? Là, on déboise. Est-ce qu'on ne pourrait pas reboiser et vendre ces crédits à des entreprises d'ici également?
Oui, vous n'êtes pas le seul à poser cette question. C'est toujours ça qui nous est posé. Pour différentes raisons, mais la principale, c'est que quand on parle de lutte au changement climatique par la captation de CO2, c'est plus efficace de le faire dans des zones tropicales. Au Nicaragua, les arbres peuvent pousser jusqu'à 10 fois plus rapidement.
C'est-à-dire qu'on peut les couper et ensuite replanter, c'est ça? Là?
Ben, dans notre plan forestier, oui, il y a des coupes sélectives, mais on va prendre une moyenne de captation de CO2, sinon on serait en train de vendre des crédits qui n'existent pas. Mais les arbres restent qu'ils poussent jusqu'à 10 fois plus vite qu'ici. Hein,
donc ça change quoi au niveau de la valeur des crédits de carbone?
Ça ne change rien. En fait, bon, certains pourraient dire que des crédits du Québec pourraient valoir moins cher, mais je ne m'engagerai pas dans ce genre de...
Cinq arbres plantés au Québec ou au Nicaragua, ça reste un crédit de carbone.
Ça reste un crédit carbone. Mais la captation se fait plus rapidement.
Oui, parce qu'ils croissent beaucoup plus rapidement. Donc, c'est plus efficace sur le plan environnemental. C'est ce que vous dites, au fond. Là.
Et au niveau de l'impact social qu'on peut avoir, c'est beaucoup plus efficace, on pourrait dire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose aux agriculteurs, c'est de diversifier leur revenu, d'avoir des moyens de subsistance, un moyen de subsistance additionnel par la foresterie. Donc, si on se faisait ça au Québec, ça serait peut-être un petit peu plus difficile de transformer une communauté avec ça. Mais là-bas, on parle de gens qui sont vraiment en mode subsistance, là, la plus extrême.
Mais ça leur apporte quoi, ces gens-là, ces agriculteurs sur lesquels vous replantez des arbres? Est-ce qu'ils reçoivent une partie des crédits? Est-ce qu'ils coupent les arbres pour les vendre? Comment sont-ils financés?
Oui, on pourrait parler d'un crédit équitable, un crédit éthique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des revenus qui sont issus de la vente des crédits qui retournent aux agriculteurs. Nous, on a constitué un fonds communautaire. Donc, à chaque fois qu'on vend un crédit, on met une partie de cet argent-là dans un fonds qui appartient aux agriculteurs. Et sur une période de 10 ans, on va leur faire, au rythme de 3 paiements par année, des versements. Et donc, c'est pour créer un certain incitatif aussi dans la durée. Et donc, ils vont tranquillement devenir des micro-entrepreneurs de foresterie, si on veut dire. Puis nous, en parallèle, en Racine, on est en train de développer un marché équitable des produits forestiers. Donc, aller chercher un autre revenu additionnel pour ces communautés-là, pour qu'au bout de ces 10 ans-là de paiement carbone, ils aient un revenu qui est vraiment autonome.
Un peu, là. Oui. Bon. Est-ce qu'il y avait un problème de forestation là-bas sur place? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait de la coupe à blanc? Est-ce qu'il y avait des terres qui avaient été ou des forêts qui avaient été décimées littéralement et qu'il faut reboiser? Est-ce qu'il y a un problème particulier au Nicaragua?
Au Nicaragua, c'est un pays qui a été particulièrement déboisé. Je peux parler de la région spécifique où on travaille, qui est dans le nord du Nicaragua, près du Honduras. C'est une vallée entourée de montagnes qui, dans les années 50, a été déboisée, brûlée à la grandeur presque pour planter du coton. Donc, c'était la folie là, des monocultures. Mm-hmm. Donc, le coton étant une culture assez intense au niveau de un besoin d'eau intense, ça a déréglé complètement le climat, l'écosystème. Et dans cette région, maintenant, les gens qui sont principalement des éleveurs, un peu des agriculteurs, n'ont plus aucun... comment je pourrais dire? Leur terre ne leur fournit pas grand-chose. Là.
C'est pas une culture vivrière, en quelque sorte. Là.
Ben, ils subsistent avec leur agriculture, leur élevage, mais on ne peut même pas appeler ça
la subsistance. Ça rapporte moins la culture du coton que la reforestation? Ouais,
c'est clair. Là. La culture du coton a duré 20-30 ans, puis après ça, c'était terminé. Là.
Parce que les terres étaient quoi? Exsangues?
Complètement
vidées là,
de nutriments, oui. Tout et là, donc, il faut faire un travail justement pour, en utilisant certaines espèces pour tranquillement restaurer ce sol.
Des espèces qui peuvent survivre dans ces terres, oui, qui ont pour été vidées de leurs nutriments.
Oui, c'est pour ça qu'on utilise des espèces qui sont de cette région spécifiquement, mm-hmm. avec des semences qui sont récoltées dans la région, etc.
Bon, et puis le Nicaragua, quoi, vous comptez vous enraciner sur place ou détendre peut-être votre opération à d'autres pays d'Amérique centrale?
On pourrait passer notre vie au Nicaragua, il y a amplement de besoin de reforestation, travail, ouais. Puis on n'a pas nécessairement d'élan de grandeur d'aller ailleurs. Je mm-hmm. pense que c'est bien de tranquillement développer au Nicaragua, établir nos bases-là. Ça fait déjà 4 ans, depuis 2007, mais 4 ans qu'on est au sein du marché du carbone et qu'on reboise des superficies plus grandes. Mais on va prendre notre temps. Puis bon, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas approché régulièrement pour développer ailleurs. Mais on considère les autres options, mais pour l'instant, on va rester au Nicaragua.
Bon, il faudrait peut-être faire un film sur vous, là. Hein? Ce ne serait pas un film d'animation, mais vraiment un film sur la vraie vie.
Bon, on a du travail à faire encore.
Oui. Mais tout de même, c'est un beau départ. Plus d'un demi-million d'arbres. Ça semble une goutte d'eau, mais c'est tout de même une goutte d'eau importante qui va... C'est avec les gouttes d'eau qu'on forme des rivières, n'est-ce pas, comme disait la chanson.
On l'espère.
Merci beaucoup et bravo pour votre implication sociale. Merci, M. Gervais.
Merci à vous.
Samuel Gervais, donc, est co-directeur général et co-fondateur de l'organisation Enracine.